Paris.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le temps des poètes numéro 12, je crois. Programme aujourd'hui de l'émission, Histoire de la poésie, comme d'habitude, les rubriques habituelles. Et puis nous continuons notre exploration de la poésie baroque. Dans Portrait de poète, nous parlerons de Guillaume Apollinaire, après avoir parlé des mouvements poétiques. Bien sûr, nous étudierons un poème à la loupe, c'est une nouvelle rubrique. Il y aura aussi l'actualité de la poésie, deux nouvelles chroniques, un poète dans l'histoire et la poésie c'est quoi, ainsi que l'humeur du jour. À bientôt donc pour une heure de poésie. Les poètes qui apparaissent à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle, loin de rompre violemment avec l'école de la Pléiade, lui gardaient amitié, reconnaissance et continuaient peu ou prou de suivre l'exemple de Malherbe dont nous avons parlé dans une émission précédente. Jean de la Cépède, 1560-1622, n'est pas très éloigné avec ses théorèmes de la cosmologie éloquente et baroque de Du Bartas. Le vase d'or rempli de la vapeur liquide qui distille du ciel dans la terre cachée. On peut en dire autant d'André Mage, de Fief Melun, 1558-1603, et de Pierre Mathieu, 1562-1621, tous deux occupés de supputations astronomiques dignes de Ronsard. Un étrange et précieux sonnet, Cosmologie, suffirait à sauver le premier de l'oubli. Point de cercle invisible, en terre sous les cieux, fleur de prime mourant soudain que naît aux yeux. Alors que les quatrains du second sont une préfiguration baroque des stances de Moréas. Baroque précieux. Ces deux épithètes, auxquelles il faudra ajouter celle de Burlesque à propos de certains de ses poètes anti-malherbiens, expriment assez mal ce qui est à la fois l'héritage de la Pléiade, y compris son goût du collège, son plaisir aux mots, son appétit scientifique, voire même ses fastes pédantesques, et un extrême souci de raffinement langagier. Une grande part de jeu et de gratuité entre dans les poèmes d'un Pierre de Montgaillard, 1550-1605, qui fait aussi preuve de réalisme burlesque. dans les distiques de Jean de Boissière, 1555-1585, et dans ses poèmes en pyramide renversée. Charles Timoléon de Cigogne, 1560-1611, retrouve quant à lui dans ses Galimatia la verve saugrenue des Phatrasies. De 60 escargots accoucha à Pamplune, 3 jeunes hérissons des loups gardent la lune. Jean Grisel et Robert Angot de l'Éperonnière, 1581-1637, à l'instar du Rabelais de la Dive Bouteille, se plaisent à composer des calligrammes en forme de hache ou de luth. Le dernier publiant en 1631 un pastiche en alexandrin du fameux « Mignonne, allons voir si la rose » qui satisfait à la fois au précepte malherbien et à son admiration pour Ronsard. Jean de Chélandre, 1585-1635, qui avoue sa fidélité à ce dernier mais aussi à Dubartas. Pierre de Marbeuf, 1596-1635, qui se plaît aux allitérations voire aux calembours. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. La mer de l'amour eut la mer pour berceau. Leur grandeur est toutefois bien moindre que celle d'un Théophile de Viau, 1590-1626, ou d'un Tristan l'Hermite, 1601-1655, qui, allant tout comme Ronsard, où leur muse les mène, retrouve la nature et le naturel. Dans ce val solitaire et sombre, le cerf qui brame au bruit de l'eau, penchant ses yeux dans un ruisseau, s'amuse à regarder son ombre. Le second n'eût-il écrit que le promenoir des deux amants s'inscrirait de même définitivement dans le fort courant que le classicisme eut à vaincre. L'ombre de cette fleur vermeille et celle de ses joncs pendants paraissent être là-dedans les songes de l'eau qui sommeille. Avec Mathurin Régnier, 1573-1613, Saint-Amand, Scarron, qui fréquente moins volontiers les salons que les cabarets, l'opposition à Malherbe et au classicisme est plus violente. C'est satirique et burlesque, mais ils ne sont pas que cela, renouent en fait avec une tradition bien antérieure à la Renaissance, celle de Ruteboeuf et de Villon. Régnier, neveu de Desporte, avec qui Malherbe eut maille à partir, en veut d'autant plus à ce dernier et à ses disciples d'avoir domestiqué la poésie. Pour lui, il n'y a pas de poésie sans liberté, voire sans nonchalance, et il entend mener la sienne comme il mène sa propre vie, en se laissant aller à la bonne loi naturelle. « Je discours des neiges d'antan, je prends au nid le vent d'antan, je pète comme le tonnerre, j'apprends aux ânes à voler, du bordel je fais la chronique. » C'est gloire et non pas honte en cette douce peine des aquets de son lit accroître son domaine. Saint-Amand, à qui il arrive de chanter harmonieusement la solitude, la nuit, voire Moïse sauvé des eaux, n'est jamais plus à son aise que lorsqu'il décrit le melon, la vigne, les cabarets. Par ce jambon couvert d'épices, par ce long pendant de saucisses, par la majesté de ce broc, par masse top, cric et croc. Scarron, dont l'épouse, fille d'Agrippin d'Aubigné, deviendra Madame de Maintenon, va lui aussi tout à fait à l'encontre des rigidités classiques, tant morales que formelles, avec des vers légers et même fripons qui l'interrompent soudain par des parenthèses explicatives. Claude Quillet peut égaler le libertinage, non la faconde de Scarron, amplement déployé dans Typhon et dans l'Énéide travestie. Dans l'enfer des classiques, cet infirme qui se rit de son malheur a droit à un cercle d'honneur. Le prélat sert la soupe et plein d'un saint respect demeure quelque temps muet à cet aspect. Paris est pour un riche un pays de cocagne. Sans sortir de la ville, il trouve la campagne. Il peut dans son jardin tout peuplé d'arbres verts recéler le printemps au milieu des hivers.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
C'était Georges Brassens, vous l'avez reconnu, bien sûr. Voici maintenant notre rubrique, les mouvements poétiques, avec le Parnasse aujourd'hui. Le Parnasse, un mouvement parnassien, est un mouvement poétique apparu en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le mouvement tire son nom du recueil poétique Le Parnasse contemporain, publié entre 1866 et 1876 par l'éditeur Alphonse Lemaire. Le terme Parnasse, dans son usage commun, désigne la poésie en général et les poètes. Le mouvement parnassien apparaît en réaction au lyrisme subjectif et sentimental du romantisme. Ses principes sont la valorisation de l'art poétique par la retenue, l'impersonnalité et le rejet de l'engagement social ou politique. L'art n'aurait pas à être utile ou vertueux et le but en serait uniquement la beauté. Le slogan « L'art pour l'art » de Théophile Gautier, considéré comme le précurseur de ce mouvement, est adopté. Ce mouvement réhabilite aussi le travail acharné et minutieux de l'artiste en utilisant souvent la métaphore de la sculpture pour symboliser la résistance de la matière poétique. Pendant les trois décennies qui ont précédé le début effectif du mouvement en 1866, certains poètes ont été des précurseurs de ces thèses principales. Par exemple, c'est en 1835 que Théophile Gautier, dans la préface de son roman « Mademoiselle de Maupin », a exposé sa théorie de l'art pour l'art et en 1852 qu'il l'a mise en pratique dans son recueil « Émo et Camé ». Le mouvement parnassien débute en 1866 lors de la parution de 18 brochures que l'éditeur Alphonse Lemaire réunit sous le nom de « Parnasse contemporain, recueil de vers nouveaux » et qui contiennent des poèmes d'une quarantaine de poètes de l'époque. Le nom de parnassien, utilisé d'abord ironiquement par ses détracteurs, est rapidement adopté pour qualifier ses poètes. Le Parnasse contemporain est suivi de deux autres recueils du même titre, le deuxième en 1869 et le troisième en 1876. Dans la décennie qui couvre la publication des recueils de Lemaire, C'est au total une centaine de poètes qui y sont publiés. Mais ils n'adhèrent pas tous nécessairement aux thèses principales du mouvement. Parmi ces poètes se trouvent de grands noms tels que Baudelaire, Verlaine, Mallarmé. Rimbaud n'y est pas publié. Il côtoie les Parnassiens à Paris en 1871, mais prend rapidement ses distances avec leur genre de poésie. La dernière édition de 1876 marque la fin du mouvement à proprement parler, tandis que se développe le mouvement symboliste. Bien que déclinant, l'esprit parnassien persiste alors quelques années. Le nom Parnasse est à l'origine celui d'un massif montagneux de Grèce. Dans la mythologie grecque, ce massif était, comme Delphes, consacré à Apollon, où il était considéré comme la montagne des muses, le lieu sacré des poètes. Le Parnasse, devenu le séjour symbolique des poètes, fut finalement assimilé à l'ensemble des poètes, puis à la poésie elle-même. En 1866, lorsqu'il fut question de donner un titre au premier recueil de poésie chez l'éditeur Alphonse Lemaire, passage Choiseul à Paris, plusieurs solutions furent envisagées. Les Impassibles, par exemple, qui fut jugé peu pratique. Enfin, un beau jour, pendant une ascension en masse et naturellement tumultueuse par le petit escalier en colimaçon, une voix ironique jeta au hasard le titre « Le Parnasse contemporain ». De qui était cette voix, ni le maire, ni personne de nous s'en souvient. Point d'un poète à coup sûr, mais d'un des amis qui venait plus ou moins assidûment se mêler à nos séances. Le titre accepté, acquis, proclamé, non sans résistance de la part de quelques-uns de ceux qui n'avaient pas pris part à la délibération du passage Choiseul, on y ajouta le sous-titre modeste « Recueil de vers nouveaux ». Selon Edmond Le Pelletier, il est probable que l'honneur de l'invention du titre revienne à Charles Marty Lavaux. Catulle Mendès a aussi revendiqué en être à l'origine, ne l'ayant imaginé qu'en souvenir du Parnasse satirique de Théophile de Viau et d'autres Parnasses autrefois publiés. Les Parnassiens préfèrent favoriser la distance et l'objectivité, s'opposant ainsi au lyrisme et à la subjectivité des écrivains romantiques, à leurs épanchements sentimentaux et à leur utilisation récurrente et surabondante du « moi ». On retrouve ces caractéristiques dans le désert de Leconte de Lisle, où il est question d'un bédouin et du désert. Quand le bédouin qui va de l'Horeb en Syrie, il rêve qu'Alborac, le cheval glorieux, l'emporte en hennissant dans la hauteur des cieux. En réaction au romantisme qui s'attaque à des sujets sociaux et politiques, les Parnassiens, eux, ne s'intéressent qu'au beau. Théophile Gautier, formalisant sa vision de l'art pour l'art, en 1834, les Parnassiens ne recherchent que le beau et ils rejettent l'engagement pris par les romantiques de l'allier à l'utile. Le culte du travail est un des principes fondamentaux des Parnassiens. Ils recherchent la perfection et cette recherche les mène à être encore plus rigoureux. C'est le cas en particulier dans le choix du vocabulaire et de la métrique. La comparaison avec le sculpteur ou le laboureur est utilisée. Il s'agit de transformer une matière difficile, ici le langage, en beau, par et grâce à un travail patient. À l'opposé des romantiques, pour qui l'inspiration prime, chez les Parnassiens, c'est le travail qui redonne ses lettres de noblesse à la poésie. L'emploi du sonnet témoigne de cet effort de perfection et les décasyllabes sont préférés aux alexandrins. Deux poètes ont particulièrement inspiré les idées des Parnassiens et ont même vu quelques-uns de leurs poèmes édités dans les recueils du Parnasse contemporain, Théophile Gautier, Théodore de Banville. Un coin de table est un portrait de groupe, tout autant qu'un témoignage sur l'histoire littéraire du XIXe siècle, du mouvement poétique, du Parnasse en particulier. À l'extrémité d'une table, c'est un tableau, plusieurs hommes sont réunis après un repas. Trois sont debout, de gauche à droite, Elzéar Bonnier, Émile Blémont, Jean Écart, cinq sont assis, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, Léon Valade, Ernest Dervilly, Camille Pelletan.
Ainsi que l'ont fait nos ancêtres, nos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur, on part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Ton cœur qui fait tourner la terre, qui bat pour rencontrer les siens, c'est le musicien solitaire le plus ancien. Il cherche encore la mélodie qui mettrait les cœurs en accord et l'âme tout en harmonie avec le corps. Puis nous deviendrons des ancêtres, je vois déjà nos descendants savoir enfin naître et renaître aux mains du temps. Le chant est dans la poésie, ainsi que les fruits dans les fleurs et les vendanges de la vie au bout du cœur. Ainsi que l'ont fait vos ancêtres, vos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne. Des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur, on part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur, au bout du cœur.
Portrait de poète Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, 1880-1918, est un poète majeur du début du XXe siècle, à la croisée du symbolisme, du surréalisme et de la modernité. Innovateur, il joue avec les formes et le langage, comme en témoignent ses calligrammes. Son recueil Alcool mêle lyrisme, mélancolie et audace formelle, marquant une transition vers la poésie libre et expérimentale. Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzki, dit Guillaume Apollinaire, est un poète et écrivain français, critique et théoricien d'art. Il est né le 26 août 1880 à Rome. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, considéré comme l'un des poètes français les plus importants du XXe siècle. Guillaume Apollinaire est né à Rome sous le nom de Giuglielmo Alberto Vladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzki, en polonais jusqu'à sa naturalisation en 1916, le cinquième prénom de Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzki. Sa mère, Angelika Kostrowica, est née à Novogrodek dans l'Empire russe, dans une famille de la petite noblesse polonaise. Après la mort de son père, camérier honorifique de cape et d'épée du pape, elle demeure à Rome, où elle devient la maîtresse d'un noble et a une grossesse non désirée. Son fils naît le 25 août 1880 et il est déclaré à la mairie comme étant né le 26 août 1880 d'un père inconnu et d'une mère voulant rester anonyme, de sorte que l'administration l'affubla d'un nom de famille, d'emprunt. Journal de Paul Léoto au 20 janvier 1919. Je vois entrer une dame, la mère d'Apollinaire, dans le bureau de Léoto, au Mercure de France, assez grande, élégante, d'une allure un peu à part, grande ressemblance de visage avec Apollinaire, ou plutôt d'Apollinaire avec elle, le nez, un peu les yeux, surtout la bouche, et les expressions de la bouche dans le rire et dans le sourire. Elle me paraît fort originale, exubérante aussi, une de ces femmes dont on dit qu'elles sont un peu hors cadre. En 1900, Apollinaire s'installe à Paris, centre des arts et de la littérature européenne de l'époque. Il y vit dans la précarité. Sa mère lui suggère, pour gagner sa vie, de passer un diplôme de sténographie et il devient employé de banque, comme son demi-frère Alberto Eugenio Giovanni. L'avocat Esnard l'engage un mois comme nègre pour écrire le roman feuilleton « Que faire ?» qui paraît dans le Matin. En juillet 1901, il écrit son premier article pour Tabarin, un hebdomadaire satirique dirigé par Ernest Gaillet. Puis en septembre 1901, ses premiers poèmes paraissent dans la revue La Grande France sous son nom Wilhelm Kostrowitzki. De mai 1901 au 21 août 1902, il est le précepteur de Gabrielle, fille d'Elinor Holterhoff, vicomtesse de Millau. De retour à Paris en août 1902, il garde le contact avec Annie et se rend auprès d'elle à deux reprises à Londres. Mais en 1905, elle part pour l'Amérique. Le poète célèbre la douceur de l'éconduit dans Annie, la chanson du mal-aimé, l'émigrant de Landor, Rudd. Entre 1902 et 1907, il travaille pour divers organismes boursiers et parallèlement publie contes et poèmes dans des revues. Il prend à cette époque pour pseudonyme Apollinaire, d'après le prénom de son grand-père maternel, Apollinaris, qui rappelle Apollon, dieu de la poésie. En novembre 1903, il lance un mensuel littéraire dont il est rédacteur en chef, Le Festin d'Ésope, revue des belles-lettres, dans lequel il publie quelques poèmes. On y trouve également des textes de ses amis André Salmon, Alfred Jarry, Mécislas Goldberg. En 1907, il rencontre l'artiste peintre Marie Laurencin. Ils entretiendront une relation chaotique et orageuse durant 7 ans. À cette même époque, il commence à vivre de sa plume et se lie d'amitié avec Pablo Picasso, Antonio de la Gandera, Jean Metzinger, Paul Gordeau, André Derain, Edmond-Marie Poulain, Maurice de Vlaminck et le douanier Rousseau. Il se fait un nom de poète et de journaliste. Le 24 décembre 1913, Guillaume Apollinaire enregistre Le Pont Mirabeau et Le Voyageur aux archives de la parole, document sonore conservé à la Bibliothèque nationale de France. En août 1914, il tente de s'engager dans l'armée française, mais le conseil de révision ajourne sa demande car il n'a pas la nationalité française. Il part pour Nice, où sa seconde demande en décembre 1914 sera acceptée, ce qui lancera sa procédure de naturalisation. Peu après son arrivée, un ami lui présente Louise de Coligny-Châtillon lors d'un déjeuner dans un restaurant niçois. Divorcée, elle demeure chez son ex-belle-sœur à la villa Baratier dans les environs de Nice et mène une vie très libre. Guillaume Apollinaire s'éprend aussitôt d'elle, la surnomme Lou et la courtise d'abord en vain. Le 9 mars 1916, il obtient sa naturalisation française, mais quelques jours plus tard, le 17 mars 1916, il est blessé à la tempe par un éclat d'obus. Il lisait alors le Mercure de France dans sa tranchée. Évacué à Château-Thierry, il est transféré vers le Val-de-Grâce à Paris. Il y est trépané le 10 mai 1916, puis entame une longue convalescence au cours de laquelle il cesse d'écrire à Madeleine. Fin octobre, son recueil de contes, Le poète assassiné, est publié et la parution est couronnée le 31 décembre par un mémorable banquet organisé par ses amis dans l'ancien palais d'Orléans. Les surréalistes s'intéressent alors à un tableau de Giorgio de Chirico datant de 1914, portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire. Un profil avec un cercle blanc dessiné sur la tempe gauche comme une cible à l'endroit même où 2 ans plus tard Apollinaire sera blessé. En mars 1917, il crée le terme de surréalisme qui apparaît dans une de ses lettres à Paul Dermé et dans le programme du ballet Parade qu'il rédigea pour la représentation du 18 mai. En 1918, les éditions SIC publient sa pièce « Les mamelles de Tirésias ». Son poème « La jolie rousse », dédié à sa nouvelle compagne, paraît en mars dans la revue « L'éventail ». En avril, le Mercure de France publie son nouveau recueil de poésie « Calligramme ». Le 2 mai, il épouse Jacqueline Kolb, jolie rousse du poème, à qui l'on doit de nombreuses publications posthumes des œuvres d'Apollinaire. Affaibli par sa blessure, Guillaume Apollinaire meurt le 9 novembre 1918, chez lui, 202 boulevard Saint-Germain, angle de la rue Saint-Guillaume. C'est la grippe espagnole qui l'a emporté en une ultime asphyxie, grippe intestinale compliquée de congestion pulmonaire, ainsi que l'écrit Paul Léoto dans son journal du 11 novembre 1918. Et voici maintenant quelques poèmes d'Apollinaire. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh, l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent, La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Guillaume Apollinaire, Les soirées de Paris, 1912, et Alcool en 1913.
Avec Georges Brassens, voici Maman, Papa. Chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman, maman,
papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Un poème très paternaliste, je trouve. Alors voilà, nous allons inaugurer maintenant une nouvelle rubrique, un poème à la loupe. Alors je vous ai lu tout à l'heure le pont Mirabeau. Alors justement, on va étudier ce poème un petit peu comme on le faisait autrefois en classe. Le pont Mirabeau, un poème emblématique de Guillaume Apollinaire qui explore les thèmes de l'amour perdu, du passage du temps et de la nostalgie, symbolisé par le fleuve qui coule sous le Ponant. Le poème Le Pont Mirabeau a été publié en 1913 dans le recueil Alcool. Il est inspiré par la relation tumultueuse d'Apollinaire avec la peintre Marie Laurencin. Le Pont Mirabeau, situé à Paris, devient un symbole de la modernité et de l'union, mais aussi de la séparation et de la mélancolie. Le poème est composé de quatre quatrains suivis d'un tercet, avec une musicalité renforcée par la répétition du vers « Sous le pont Mirabeau coule la Seine » qui souligne le passage inéluctable du temps. Les thèmes principaux de ce poème, alors donc, c'est le passage du temps, l'amour, la nostalgie, la solitude aussi. Le passage du temps, l'eau de la Seine qui coule sous le pont symbolise le flux incessant de la vie et le caractère éphémère des moments heureux. L'amour, la nostalgie, le poème évoque une relation amoureuse passée, marquée par la nostalgie, les termes « nos amours » soulignent une complicité perdue. La solitude, à travers les vers comme « les jours s'en vont, je demeure », Apollinaire exprime un sentiment de solitude face à la perte. Le pont Mirabeau est quand même un chef-d'œuvre de la poésie moderne qui réussit à capter l'essence de la condition humaine à travers des thèmes universels tels que l'amour, la perte, le passage du temps. C'est l'universalité qui fait la différence. Le pont Mirabeau a été écrit en partie à la prison de la Santé, où il séjourne une semaine en 1911, en même temps que le poème « À la Santé » est publié une première fois en revue en 1912, dans une version ponctuée et légèrement différente. En 1913, le poème dont il a supprimé la ponctuation, comme dans tout le recueil, est publié dans « Alcool ». Alors on peut découper le poème en deux parties. Une première partie, le discours amoureux, et une deuxième partie, la fuite du temps. Alors en quoi ce poème est-il le moderne? Eh bien dans le choix du titre déjà, le choix du titre, le pont Mirabeau, un pont parisien qui incarne la ville et la modernité qu'aime Apollinaire. C'est un pont métallique qui a été achevé en 1897. Dans le Vérin, Apollinaire reprend le titre et le situe à Paris. Initialement, il y avait un point à la fin du vers comme un constat initial. Dans le vers 2 et 3, il ne formait qu'un seul vers. Le poème était donc composé de tercets, de décasyllabes réguliers. Apollinaire a voulu le rendre plus moderne en découpant et en collant le vers 2 de chaque strophe de façon arbitraire en 4-6 syllabes. Alors on va pas analyser tous les vers, bien sûr, c'est la rubrique le poème à la loupe, mais quand même, on va par exemple analyser le vers numéro 4. Dans le vers numéro 4, il y a l'idée du cycle sans fin de la joie et de la peine. Il y a une répétition de la déception amoureuse, mais la joie peut être aussi celle de la création poétique née de la douleur. Il y a aussi une mise en place du registre pathétique. Le vers 10, par exemple, l'eau s'y lasse des éternels regards. Il y a une personnification de la scène qui voit sans cesse des amoureux se promettre un amour immortel alors qu'elle sait que c'est faux. Le mot éternel a donc un double sens. Ce sont les regards qui sont toujours les mêmes, mais aussi les amours qui sont prétendument éternels. Enfin, on va terminer par les derniers vers, le vers 22, même effet que le vers 1. Un effet de cycle sans fin et de musicalité. Comme dans les comptines enfantines, la fin revient au début et les ruptures se répètent sans fin. Le vers 23 et 24, quatrième et dernier refrain, venant casser un peu l'effet cyclique, « Ainsi je demeure » clôt le poème, il reste seul. Dans cette deuxième partie est développé le thème de la fuite du temps, associé à l'eau qui coule. Le poète se présente comme un mal-aimé qui chante son désespoir amoureux comme Orphée.
Elle ne fait peur à personne, et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sonne, mais les journaux n'en parlent pas.
Madame Adrienne, c'est une infirmière qu'un chagrin d'amour exila très tôt. Ses enfants sont ceux que le malheur génère et qu'on abandonne dans les hôpitaux. Ce qui fait qu'au moment de prendre sa retraite, Madame Adrienne avait 7 enfants. 3 petits garçons et 4 fillettes qui vivaient chez elle et disaient « Maman ».
Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son bas. Elle ouvre à tout enfant qui sort, mais les journaux n'en parlent pas.
Elle avait 20 ans, la belle Adrienne, quand son amoureux devint son amant. Leur bonheur durait depuis 6 semaines, quand elle eut compris qu'elle était maman. L'honneur en ces temps voulait qu'on s'exile, garder le secret et faire semblant qu'on avait trouvé du travail en ville et qu'on reviendrait pour le jour de l'an.
Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sonne, mais les journaux n'en parlent pas.
Âgé de 3 jours, baptisé Étienne, l'enfant de l'amour était adopté. On persuada la belle Adrienne qu'ainsi son secret serait bien gardé. Le sort est cruel pour la fille mère, mais avec le temps, les témoins s'en vont. Elle est devenue la belle infirmière et n'a retenu qu'à peine un prénom.
Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit.
Il faut vous dire ici que Madame Adrienne, pour ses 80 ans, tenait toujours maison et faisait son marché et faisait des neuvaines, rêvant de retrouver un beau jour son garçon. Or, un matin d'hiver, l'aînée des quatre filles qui vivaient avec elle et la suivaient partout, la trouva affaiblie et se plaignant beaucoup. Malgré les « je vais bien » et « ce n'est pas la peine », Armande a décidé « j'appelle un médecin ». Vint donc un homme âgé, au bord de la retraite, qui remplaçait parfois un confrère occupé. Il s'informe, il ausculte, examine et questionne, et prescrit du repos. La patiente, à son tour, se reprend à parler de sa vie d'infirmière, puis d'un chagrin d'amour et de l'enfant perdu, puis de la barbarie au masque de vertu qui bannissait l'enfant, le privant de sa mère, au nom d'une morale insensible à l'amour. Je reviendrai vous voir. Il revient tous les jours. C'est qu'il a 60 ans et qu'il s'appelle Étienne. Il sait que sa maman s'appelait Adrienne et qu'il fut adopté. Il sait bien où et quand. Elle dit souvent, Madame Adrienne, que les grands bonheurs ont le pas très lent. Elle aura 100 ans dans les 3 semaines et sur son passé s'est repris 20 ans. Les enfants perdus qu'était sa famille ont tous des enfants qu'elle gâte un peu. Elle a les joues roses et les yeux qui brillent et plein de projets pour chacun d'entre eux.
Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sonne, mais les journaux n'en parlent pas. Elle ne fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sort, les journaux n'en parleront pas.
Voilà, c'était notre ami Gilles Vigneault. Je voudrais rendre hommage aujourd'hui à un poète que j'aime bien, et en plus je lui emprunte son histoire de la poésie. Il s'agit de Jean Rousselot. Je voudrais vous faire écouter Jean Rousselot.
Rousselot, le cœur trop petit. Quand je serai grand, dit le petit vent, j'abattrai la forêt et donnerai du bois à tous ceux qui ont froid. Quand je serai grand, dit le petit pin, je nourrirai tous ceux qui ont le ventre creux. Là-dessus s'en vient la petite pluie, qui n'a l'air de rien, abattre le vent, détremper le pin, et tout comme avant, les pauvres ont froid, les pauvres ont faim. Mais mon histoire n'est pas à croire. Si le pain manque et s'il fait froid sur terre, ce n'est pas la faute à la pluie, mais à l'homme, ce dromadaire, qui a le cœur beaucoup trop petit.
Voilà, c'était Jean Rousselot. Jean Rousselot aimait beaucoup parler des animaux. Et dans ce poème, effectivement, il évoque les animaux aussi. Il a écrit beaucoup de poèmes sur les animaux. Je vous parle de Jean Rousselot parce que Jean Rousselot a écrit une histoire de la poésie et dont je m'inspire beaucoup pour la rubrique Histoire de la poésie. Voilà, maintenant on va parler un peu de ce qui fait l'actualité de la poésie. Alors, dans l'actualité, cette semaine, un poème de Victor Hugo qui a servi de titre pour un film de cinéma avec Jean Dujardin, Les rayons et les ombres. C'est un film qui vient de sortir. Le film est l'histoire d'un directeur de journal qui collabore avec les Allemands. C'est aussi l'histoire de la déchéance d'un homme qui laisse tomber ses valeurs. Et c'est là qu'intervient la poésie. La poésie est un phare qui nous éclaire dans la masse des turpitudes humaines. Les rayons et les ombres, ce n'est pas seulement un film, c'est aussi un recueil de 44 poèmes écrits après 1830 et que Victor Hugo publie en 1840. Par cette publication, Victor Hugo prétend amener la poésie au plus près des hommes, leur faire parcourir des chemins universels au-dessus des luttes et des partis. En quelque sorte, il pense mettre sa pensée au service d'une œuvre civilisatrice. les rayons traversent l'univers joyeux de la beauté, de l'amour, de la nature en fait, et du souvenir des jours heureux. À l'opposé, les ombres expriment la tristesse, les morts, les rois, les héros oubliés. Ensemble, ils forment la vie. Les rayons sont interprétés comme un symbole de la connaissance, d'où la mission de guide du poète. À l'inverse, les ombres sont interprétées comme un symbole de l'ignorance. Le poète a la mission de guider les gens en éclairant les ombres. Parmi les poèmes du recueil figurent Océano Nox ou encore Fonction du poète, qui remplit exactement son rôle et se révèle très utile pour la compréhension de chacun. Qui a dit que la poésie n'était pas actuelle, puisqu'on reprend un titre d'un poème de Victor Hugo, d'un recueil de Victor Hugo, pour un film qui sort aujourd'hui.
Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou.
What a outil, what a outil.
Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
What a outil, what a outil.
Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé.
What a outil, what a outil.
Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
What a outil, what a outil.
À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin.
What a outil, what a outil.
Mais dans ses calculs, il se trompe, et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
What a outil, what a outil.
Comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal.
What a outil.
C'est commode, je vous jure.
What a outil.
Et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilain requin. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur.
C'est bien le bricolage, hein. C'est très poétique, je trouve, la chanson. Y a-t-il des mots d'ailleurs plus poétiques que d'autres ? Certainement, on pense au mot liberté ou au mot espérance. Chacun a son lot de mots qu'il aime un peu plus que les autres. Cela dépend de son éducation, de son vécu, de l'humeur du moment. Mais il y a aussi la manière dont les mots sont agencés. On a vu qu'au début de l'histoire de la poésie était chanson. Les mots étaient au service de l'histoire, une légende quelquefois. Ils devaient être donc compréhensibles par tous. Puis il y a eu les rimes qui imposaient une structure et aussi une ressemblance des sons. Petit à petit, la poésie s'est affranchie des contraintes et les mots sont devenus les véritables héros des poèmes. Le poème pouvait également inventer des mots qui n'existaient pas dans le dictionnaire. Les mots ont une histoire. Quel mot était employé par les premiers hommes ? C'est une question qu'on peut se poser. Sans doute des mots utiles. Est-ce que la poésie contient toujours des mots inutiles ? Pas sûr. Ils ne sont pas forcément utiles au quotidien, mais sûrement utiles à l'âme. L'âme du quotidien. Cette conscience qui nous poursuit jusqu'à la fin.
Pour que la feuille aille au plus haut, chante le travail des racines, des fleurs aux fruits qu'on imagine. Il faut de l'eau, il faut de l'eau. Pour que la grive ou le pivet trouve pour la saison nouvelle où cacher ses œufs et ses ailes, il faut de l'air. Il faut de l'air pour qu'après les adieux du corps, l'âme se fasse arbre qui vole, pour que la vie ait la parole, il faut la mort, il faut la mort. Que dans le ruisseau des jours, au bout du cœur fleurisse l'âme, pour que l'homme apprenne la femme, il faut l'amour, il faut l'amour.
Alors, au bout de la 12e émission, on se pose toujours la question, c'est quoi la poésie ? Alors, moi, je vous propose quelques définitions. Une définition de Victor Hugo, par exemple, la poésie est un monde enfermé dans un homme. Une autre définition, celle de Jacques Prévert, la poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive souvent. Une autre définition, Jean-Pierre Depétri, la poésie, ça sert à voir avec les oreilles et pas avec les yeux. C'est curieux. La poésie, c'est de savoir dire qu'il pleut quand il fait beau et qu'il fait beau quand il pleut. Alors, je ne sais pas quel temps il fait aujourd'hui, je crois qu'il ne pleut pas. Ça, c'est une définition de Raymond Queneau. La poésie, c'est le langage dans le langage, une définition de Paul Valéry. Enfin, je vous donne une dernière définition pour vous faire réfléchir. Peut-être que vous, vous avez votre propre définition de la poésie. La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Alors, cette définition est d'un grand poète anglais. Il s'appelait William Shakespeare.
Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara. Toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'où est sang. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin. Au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.
Voilà, vous avez reconnu bien sûr Yves Montand. Un poète dans l'histoire, on va s'essayer à une nouvelle rubrique. L'année terrible est un recueil de poèmes de Victor Hugo publié en 1872. Il retrace l'année 1870-1871, durant laquelle la France voit, à la suite de sa défaite lors de la guerre contre la Prusse, le soulèvement de la classe ouvrière à Paris. Cette œuvre de Victor Hugo, âgée de 70 ans, au moment de sa publication, se présente sous la forme d'un recueil de poèmes publié par la maison d'édition Michel Lévy Frères en 1872. Une édition illustrée et ensuite publiée par ce même éditeur 1873-1874, puis chez Hugues en 1879. Cette œuvre poétique relate les événements liés à la guerre entre la France et la Prusse, conflit qui opposa le royaume de Prusse et les États coalisés allemands contre la France, s'étant déroulé entre le 19 juillet 1870 et le 28 janvier 1871, puis les événements liés au soulèvement du 18 mars 1871 et à la Commune insurrectionnelle de Paris. Certains poèmes évoquent également le deuil subi par Victor Hugo avec la mort de son fils Charles, dont les funérailles organisées entre la gare d'Orléans au cimetière du Père-Lachaise se déroulèrent le premier jour du soulèvement du peuple parisien. Par respect pour Victor Hugo, les insurgés ouvrent les barricades pour laisser passer le convoi. Le poète n'oubliera pas ce geste, malgré ses divergences avec la Commune. Selon le quotidien fondé par Charles et François Victor Hugo, trois gardes nationaux reconnaissant Victor Hugo se sont mis aussitôt aux côtés du corbillard et l'ont escorté, fusil sous le bras. D'autres gardes nationaux ont suivi leur exemple, puis d'autres, et bientôt, ils ont été plus d'une centaine et ils ont formé une haie d'honneur qui a accompagné jusqu'au cimetière notre cher et regretté camarade. Parti en exil en Belgique, puis au Luxembourg, Victor Hugo y séjourne quelques mois pour y écrire ce recueil de poèmes avant de rentrer en France. Dans l'un de ses poèmes, intitulé « À ceux qu'on foule aux pieds », il plaide pour l'amnistie des communards condamnés et n'hésite pas à décrire la misère et l'injustice liées à la situation économique et politique de cette fin de règne. Le poème « Représailles » évoque les représailles effectuées par tous les protagonistes de la guerre civile, que ce soit les membres de la Commune insurrectionnelle ou les membres du gouvernement de Versailles. Il s'agit d'un recueil de 97 poèmes, dont un prologue et un épilogue. « Je ne fais point fléchir les mots auxquels je crois, raison, progrès, honneur, loyauté, devoir, droit. On ne va pas... point au vrai par une route oblique. Sois juste. C'est ainsi qu'on sert la République. Le devoir envers elle est l'équité pour tous, pas de colère et nul n'est juste s'il n'est doux. La révolution est une souveraine, le peuple est un lutteur prodigieux qui traîne le passé vers le gouffre et l'y pousse du pied. Soit, mais je ne connais dans l'ombre qui me sied pas d'autre majesté que toi, ma conscience, j'ai la foi. Ma candeur sort de l'expérience. Ce que j'ai terrassé, je ne les brise pas. Mon cercle, c'est mon droit. Leur droit est mon compas. Qu'entre mes ennemis et moi tout s'équilibre, si je les vois liés, je ne me sens pas libre. À demander pardon, j'userai mes genoux si je versais sur eux ce qu'ils jetaient sur nous. Jamais je ne dirai, citoyens, le principe qui se dresse pour nous, contre nous se dissipe, honorons la droiture en la congédiant, la probité s'accouple avec l'expédient. Je n'irai point cueillir, tant je craindrai les suites, ma logique à la lèvre impure des jésuites. Jamais je ne dirai, voilons la vérité, jamais je ne dirai, ce traître a mérité, parce qu'il fut pervers, que moi je sois inique. Je succède à sa lèpre, il me la communique. et je fais, devenant le même homme que lui, de son forfait d'hier ma vertu d'aujourd'hui. Il était mon tyran, il sera ma victime. Le talion n'est pas un reflux légitime. Ce que j'étais hier, je veux l'être demain. Je ne pourrais pas prendre un crime dans ma main. En me disant, ce crime était leur projectile. Je le trouvais infâme et je le trouve utile. Je m'en sers et je frappe, ayant été frappé. Non, l'espoir de me voir petit sera trompé. Quoi ? Je serai sophiste avant, ayant été prophète ? Mon triomphe ne peut renier ma défaite ? J'entends rester le même, ayant beaucoup vécu, et qu'en moi le vainqueur soit fidèle au vaincu. Non, je n'ai pas besoin. Dieu, que tu m'avertisses. Pas plus que deux soleils, je ne vois deux justices. Nos ennemis tombés sont là, leur liberté est la nôtre. Au vainqueur, c'est la même clarté. Voilà, c'était la rubrique « Un poète dans l'histoire ». Victor Hugo qui évoquait dans un poème la période 1870-1871. Il va bientôt falloir nous quitter, en tout cas pour le temps des poètes. Je vous dis à bientôt au mois d'avril pour un autre temps des poètes, mais je vous fais une surprise tout à l'heure, vous allez voir. À bientôt. Quand je vous dis que j'allais vous faire une surprise, il se trouve que Pascal ne peut pas assumer l'émission Faites-nous des chansons. Il n'y aura pas de Faites-nous des chansons aujourd'hui. Alors, plutôt que de vous laisser tout seul avec de la musique, je vous propose de vous accompagner jusqu'à 14h. Je remercie Pascal qui gentiment m'a permis de continuer un petit peu le temps des poètes. Ça sera pas tout à fait le temps des poètes. Moi, j'ai envie de dire que ce hors-série, on pourrait l'intituler « La tête dans les étoiles ». Moi, je vous propose de passer 2 heures en votre compagnie jusqu'à 14h avec toujours de bonnes chansons et puis aussi toujours de la poésie et toujours beaucoup de poètes qui vont nous accompagner jusqu'à 14h. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Et on va commencer tout de suite avec Gilbert Bécaud.
Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère, disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment à la folie, d'un amour infini, elles t'aiment pour la vie. As-tu déjà effacé ce passé qui m'obsède? As-tu déjà oublié que ces mains ont...